Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, ici André Bouchard qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur les ondes de votre station radiophonique préférée, Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto, pour votre nouvelle émission Voyage, voyage. En effet, tout au cours de celle-ci, je vous ferai découvrir les différentes facettes du monde touristique et culturel, tant du côté local, régional, national et bien sûr, international. En fait, tous les prétextes pour traiter de voyages et de sujets connexes afin de bien vous informer ou vous faire découvrir le tout avec musique et entrevues. Je profite également de l'occasion pour remercier la direction de me donner l'opportunité de vous présenter cette série d'émissions qui, j'espère, saura vous intéresser. Donc, sans plus tarder, voici les sujets que nous avons concoctés pour aujourd'hui qui, j'espère, sauront vous plaire. D'abord, la 51e édition du Festival Western de Saint-Tite avec Benoît Montreuil, président de cet événement considéré comme le plus grand événement du genre Western dans l'Est du Canada. Ensuite, l'exposition de l'image à l'objet en compagnie de l'éminent professeur Normand Cornette. La route de Champlain en Ontario avec Isabelle de Blouin, et nous compléterons avec une belle destination de l'Amérique du Sud en compagnie de René Wilson. Là-dessus, je vous souhaite une bonne émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'antenne de votre station radiophonique préférée, Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto, pour votre émission Voyage, voyage.
Je voudrais vous dire, je vous dois un moment de grande qualité.
Choc, la meilleure
musique. Nous transportons du côté de Saint-Tite. On sait que le Festival Western célèbre cette année son 51e anniversaire et est considéré comme le plus grand événement Western de l'Est du Canada. Et pour nous en parler, j'accueille avec plaisir le président Benoît Montreuil, que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, M. Montreuil.
Bonjour, M. Bouchard. Bonjour à tous les auditeurs.
M. Montreuil, quand on parle du Festival Western de Saint-Tite, ça a fait ses preuves après 51 ans, là.
C'est certain. On est, au niveau, vous le disiez, au niveau des rodéos. Ça fait maintenant 19 ans qu'on est le meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord. Puis le festival est là depuis 51 ans. Tant au niveau des spectacles, au niveau de l'ambiance, on est une sommité au niveau country western dans l'Est du Canada.
Et au moment où l'on se parle, est-ce que tous les préparatifs vont bon train pour faire un succès du prochain festival?
Oh oui, ça bouge beaucoup à Saint-Tite, même là, depuis quasiment déjà 2 semaines. Là. Les résidents ont commencé à décorer le maison, fait que ça va très bien à ce niveau-là. On va être fin prêt pour le 7.
Je sais que vous avez concocté toute une programmation. Alors, pour nos auditeurs et internautes, parlez-nous-en quelque peu.
Le premier dimanche, on a un spectacle en fin de journée de la famille d'Arèche avec des invités comme Mario Pelcha, Isabelle Boulay et le reste de la famille d'Arèche va être là. Si on se déplace maintenant, mercredi 12 septembre, on a un spectacle d'Annie Blanchard. C'est son lancement de son nouvel album qui va se faire là. Jeudi 13, spectacle de Caïn. J'ai rencontré les gars de Caïn il y a quelques mois. Ils sont bien contents d'être à Saint-Tite. Ce sera leur deuxième fois. Ils étaient à Saint-Tite il y a 17 ans. Fait que disons qu'ils étaient bien fiers d'être avec nous pour la 51e édition. Le vendredi 14, on a un spectacle Québec-issime qui s'appelle Cowboy. C'est un spectacle qui tourne déjà au Québec, mais qui se renouvelle à tous les ans. Ce sera très bien, là, un très beau spectacle, une revue musicale. Samedi 15, c'est l'Open Country des Mountain Daisy. Un concept, des artistes populaires qui viennent faire leur succès en version country avec le groupe Les Mountain Daisy. On va avoir comme invité Patrick Normand, Andréane Amalette, Annie Villeneuve va être là, Jonathan Pinchot, Cindy Bédard de Saint-Tite, Wilfrid Leboutillier et Laurie Leblanc. Fait que c'est pour le Country Club Desjardins, ça fait le tour. On a aussi un autre site qui est La Forge Loto-Québec. C'est des spectacles qu'on présente là tout au long du festival gratuit. Puis je veux juste porter à votre attention, le country, clientèle peut-être un peu plus jeune. Ben moi, ce que je suis bien fier aussi cette année, on a un nouveau site du festival qu'on amène à la 51e édition, qui va s'appeler Zone Ado. La clientèle adolescente et jeune adulte se déplace à Saint-Tite à tous les ans. Mais nous, c'est une clientèle qu'on faisait peut-être moins d'activités pour eux, qui était moins impliquée dans la programmation du festival. Fait que cette année, on arrive avec la Zone Ado, qui va être un site où l'accès sur le site va être gratuit. Il va y avoir un chapiteau avec l'animation à l'intérieur. On va y avoir des tables pour jouer au soccer sur table, pour jouer au hockey sur table. Il va y aussi y avoir sur le site une grande roue, un mur d'escalade, des jeux d'animation 5D. On va y avoir aussi des jeux d'évasion. Moi, je pense que c'est un site qui est nouveau cette année, qui va être appelé à grandir dans le temps, un peu sur le même principe de la place de la famille où ce que on dessert la clientèle enfant. Ben, au fil des ans, cet endroit-là a grandi, cet endroit-là s'est renouvelé. Puis c'est ce qu'on veut débuter à la 51e édition avec Place Ado.
Monsieur Beautreuil, quand on parle aussi, vous avez parlé des rodéos qui sont très populaires. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un rodéo? Comment ça se déroule en général?
Durant les 10 jours de l'événement, le Festival Western va présenter 10 rodéos. Un rodéo, en réalité, c'est plusieurs disciplines différentes qui sont présentées. On a des disciplines comme, si je vous parle, la monte de taureau, la monte de chevaux sauvages sans selle, la monte de chevaux sauvages avec selle, et la monte de veau pour les juniors. Ces disciplines-là, ça consiste en le cowboy est sur la bête. Il doit demeurer sur la bête un minimum de 8 secondes. Puis par la suite, il y a des juges qui évaluent la performance du cowboy et la performance de l'animal aussi. Puis selon les points établis par le juge, ben on a des classements qui sont faits, puis les bourses sont remises aux cowboys qui obtiennent le plus de points. On a les disciplines qui sont en lien avec des temps à réaliser. Si on parle de la course de baril, si on parle de l'échange de cavaliers, Poney Express, c'est des disciplines où ce que un cavalier a à faire un parcours avec le cheval dans le temps le plus rapide. Ça ressemble à ça. Par la suite, on a aussi l'attrapé du veau lasso, terrassement du bouvillon. C'est des disciplines où ce que le veau ou le bouvillon est dans une chute. Puis dès qu'il sort de la chute, le cowboy est à cheval, puis il doit soit attraper le bouvillon ou attraper le veau. Mm-hmm. Ah, ben c'est sûr, ça fait le tour des disciplines, là, en fait, qui sont présentées dans les rodéos. On a certains rodéos où ce qu'on a des démonstrations. Mm-hmm. On parle de la discipline de bullfighting, où ce que c'est les clowns de rodéo qui sont mis dans l'arène avec un taureau. Puis il y a joute entre les deux si on veut. Puis encore là, c'est un genre de compétition qui est noté, qui est jugé.
Alors c'est très captivant. Monsieur Montreuil, si on parlait, est-ce que d'autres activités reliées au festival qu'on aurait oublié que vous voulez mettre en évidence?
Bien, la danse. Cette année, on a innové beaucoup avec un tout nouveau chapiteau pour les amateurs de danse. La danse fait partie des 4 axes principales du Festival Western de Saint-Tite. Beaucoup de gens se déplacent à Saint-Tite pour venir danser. Alors, l'an passé, on avait élaboré un chapiteau de danse, puis on a été victime un peu de notre succès. Cette année, on revient avec un chapiteau qui a une fois et demie la dimension de celui de l'an passé, un aménagement intérieur complètement refait. Il va y avoir des gradins où ce que les gens pourront regarder les danseurs. Tous les danseurs vont être conviés à venir dans ce chapiteau-là qui est flambant neuf. On a une coordonnatrice qui a amené des super belles activités, plusieurs cours de danse différents. Il va y avoir des chorégraphes reconnus mondialement qui vont être présents aussi lors des Joe. Alors vraiment, la danse, tous les amateurs de danse, je crois qu'ils vont être bien contents de venir à Saint-Tite cette année voir nos installations.
Monsieur le Président, quand on parle d'hébergement, je sais que le camping est très important. Alors pour compléter, là, est-ce que c'est possible d'héberger et quelle est l'invitation que vous faites aux amateurs du genre?
Bien, pour ce qui est de venir camper à Saint-Tite, c'est certain que sur la page Internet du Festival Western de Saint-Tite, on offre une liste d'hébergements selon vos besoins qui sont comblés par les résidents de Saint-Tite. C'est les résidents de Saint-Tite qui accueillent les gens sur leur terrain. Selon le type d'installation que vous avez, ben vous pouvez trouver là, la liste d'hébergement en lien avec, puis vous communiquez directement avec les gens. C'est comme ça que ça fonctionne pour le festival.
Et pour plus de renseignements concernant le festival, qu'est-ce qu'on doit faire? Avez-vous le nom du site Internet et le numéro de téléphone s'il y a lieu?
Site Internet swst.ca et numéro de téléphone, on y va avec le 1-877-493-7837.
Alors, M. Benoît Montreuil, président du Festival Western de Saint-Tite, 51e édition, merci de cette entrevue. On vous souhaite un excellent festival pour la prochaine semaine. À la prochaine.
Bien, je vous remercie beaucoup et on vous attend en grand nombre à Saint-Tite.
Avec grand plaisir. À la prochaine.
Bonjour, c'est Alex Nevsky sur Choc FM 105,1, vibré en français à Toronto.
J'ai le plaisir d'accueillir maintenant, au cours de cette émission, le professeur Normand Cornette, qui va nous parler d'une belle exposition spéciale de l'image à l'objet, l'œuvre d'Arlette Nier-Dauba, Rencontre dialogique. Alors, bonjour, professeur.
Bonjour, M. Bouchard, et merci pour cette invitation. Il m'est un plaisir de m'adresser à votre auditoire. D'abord, pourquoi ce titre de l'image à l'objet? C'est parce que l'artiste Arlette Nier-Dauba, elle est polyvalente, elle est pluridisciplinaire. Donc, cette exposition comprend les images, entre autres, des tableaux, des peintures, des scènes de forêts, d'arbres, surtout en automne, mais à couper le souffle. Donc, elle est dans ce médium tout à fait à l'aise, mais elle ne se contente pas de la peinture. Elle est une sculpteure incroyable. Incroyable. D'ailleurs, dès la rentrée dans cette salle d'exposition, et qui est tout à fait unique, je tiens à souligner que cette exposition a lieu à la galerie Georges Laoune, opticien, située au 1396 rue Sherbrooke Ouest, au coin de Bishop, et pour attirer votre auditoire, Monsieur Bouchard, mais c'est l'endroit même, c'est dans l'immeuble du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, et l'entrée est libre, c'est ouvert au grand public, et qui plus est, on aura l'occasion de rencontrer en personne Arlette Nier-Dauba pour parler de sa vision créative, de sa démarche artistique lors d'une rencontre dialogique que je vais présenter avec l'artiste. Et donc cette rencontre dialogique aura lieu, on est en tête à tête avec l'artiste, le 10 septembre prochain de 18h à 20h, et ce sera suivi d'un vin d'honneur. Donc on a l'occasion de parler en toute liberté et on donne la parole au grand public, ces micros ouverts, pour parler avec cet artiste qui, elle, fait aussi des sculptures incroyables. Je pense d'abord à Harmonie en bronze patiné et bronze poli miroir sur un socle qui tourne de sorte qu'on puisse la voir en 360 degrés. Mais là, on voit la maîtrise de la technique et de la matière de la part de cet artiste Arlette Nier-Dauba. Et de plus, on voit la pensée qui informe sa vision créative. Je tiens à mentionner à votre auditoire, Monsieur André Bouchard, quand je dis il s'agit d'une artiste chevronnée, eh bien je pèse mes mots parce que Arlette Nier-Dauba détient un doctorat, rien de moins, en études littéraires. Donc, en tant que professeur, je suis très conscient de cette nouvelle discipline qu'on appelle les études textuelles, parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement l'écrit qui est un texte, qui raconte une histoire, qui est un récit narratif, avec une trame narrative. Eh bien, c'est également des tableaux et des sculptures. Or, ce qui se passe chez Arlette Niedoba, et pourquoi ce titre de l'image à l'objet, on pourrait dire de l'écrit à l'objet, en passant par l'image, c'est qu'elle raconte des histoires et elle a des récits. Il y a une trame narrative et surtout sur la condition humaine. Et cette grande sculpture magnifique, Harmonie en est la preuve, et c'est une réflexion en bronze sur la condition humaine, autant chez l'homme que chez la femme, et elle nous met devant l'évidence de l'humanité foncière de chaque être humain. Peu importe son genre, peu importe son identité, quelle qu'elle soit, on disait autrefois, l'identité sexuelle, elle tend vers l'universel pour rejoindre le tréfonds de la condition humaine qui habite chacun de nous, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on a une identité trans, entre, parce qu'elle puise dans le dénominateur commun de la condition humaine.
Donc un grand voyage, on pourrait dire, humain.
Oui, on voyage à travers ces images, à travers ces sculptures, et quand on parle de voyage, eh bien, docteur Arlette Niedoba est elle-même une grande voyageuse. Elle est originaire du Moyen-Orient. Elle a fait son doctorat en français, dans les lettres françaises, mais elle est polyglotte. Donc on parle de quelqu'un qui a une vision du monde. Et j'ose croire, Monsieur Bouchard, c'est cette vision du monde très large, très ouverte, inclusive, qui explique pourquoi elle présente la condition humaine, non pas dans des oppositions, dans des dichotomies, mais plutôt dans une synergie, dans une synthèse qui enrichit notre perception de la condition humaine.
Alors, professeur Cornette, quelle invitation faites-vous pour cette occasion vraiment spéciale et artistique?
Alors, d'abord, j'invite votre auditoire, M. Bouchard, à consulter le site web d'Arlette Niedoba, donc www.arletteniedoba.com, et j'appelle son nom de famille Niedoba. Et on peut également consulter mon site web du professeur Normand Cornette, www.cdedec.com. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 10 septembre prochain à la galerie Georges Lahune, opticien. Et c'est de 18h à 20h, suivi d'un vin d'honneur. Et je vous rappelle que la galerie et l'opticien Georges Lahune se situe au 1396 rue Sherbrooke-Ouest, coin Bishop, dans les meubles du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et si jamais vous êtes pris le 10 septembre, et lors d'une tête-à-tête avec Arlette Niedoba, eh bien l'exposition continue jusqu'au 29 septembre, donc tout le mois de septembre.
Alors, professeur Cornette, merci de cette belle entrevue. On souhaite de nombreux visiteurs à l'occasion de cette exposition vraiment spéciale d'une grande artiste. Prochaine, au revoir.
Au revoir.
105.1 Choc FM, votre radio, tout en français.
Et maintenant, une visite par la route Champlain. Pour nous en parler, j'accueille Isabelle Debruin, qui va nous donner un peu plus de détails de quoi il s'agit. Une route ontarienne, en quelque sorte. Alors, bonjour, Isabelle Debruin.
Bonjour et bienvenue.
Merci. Alors, c'est quoi cette route de Champlain?
Alors, la route touristique Champlain de l'Ontario, de son grand nom, en fait, c'est un concept de route touristique qui a été développé par le ministère de l'Ontario avec l'industrie touristique pour offrir une expérience francophone et bilingue autour de la thématique et des voyages de Champlain en Ontario. Donc, l'objectif, ça a été de rassembler au départ des régions pour travailler sur ce projet-là, puis de certifier un certain nombre d'attraits touristiques qui sont soit en lien géographique ou en lien historique avec les voyages de Samuel de Champlain, et d'offrir en fait une palette d'expériences en français ou bilingue à des voyageurs qui sont intéressés soit par le thème de l'histoire, la culture, mais ça peut être aussi évidemment l'exploration à travers l'aventure, la nature, et également développer le côté agrotouristique, tourisme culinaire, communauté locale francophone.
Alors, parlez-nous justement un peu des routes d'abord.
Alors, la route s'étend quand même sur près de 1400 kilomètres. Elle traverse 7 régions de l'Ontario. Donc, c'est évidemment une route, c'est un grand corridor qui nous permet de découvrir plusieurs régions. Ça aussi, ça se décline par circuits régionaux, selon l'identité, puis selon aussi l'intérêt des gens. Donc, selon la région qu'ils veulent visiter d'abord, et puis ensuite, si c'est plus des gens qui sont intéressés au niveau de l'histoire ou qui ont plus une affinité avec l'aventure, comme le rafting ou ces activités-là sur l'eau.
Donc, on peut faire plus que juste se promener sur la route, là.
Tout à fait. Ça peut être une route pour des groupes, mais ça peut être aussi une route pour des voyageurs individuels, des familles. On a des attraits aussi qui sont plus particulièrement pour les familles. On peut penser à Sainte-Marie, au Pays du Huron, dans la région de Midland, qui offre des visites, des expériences vraiment de l'époque. Donc, on a aussi beaucoup de parcs. On a 4 parcs pour l'instant au niveau de l'Ontario. On prévoit d'en ajouter 4 autres. Et on travaille aussi avec tout ce qui est au niveau navigable. Donc, aussi bien la location de bateaux, maisons que des croisières. Donc, dans la région d'Ottawa, mais aussi dans la région de Peterborough. Et on travaille actuellement avec la région de Kingston également.
Et parlez-nous des partenaires, parce que certainement que des visites spéciales. Alors, de quoi s'agit-il?
Oui, alors ce qu'on essaie de travailler avec les partenaires de la route, les membres qui ont été certifiés, c'est la façon dont ils vont présenter l'expérience Champlain dans leur propre offre. Donc, par exemple, une descente en rafting, est-ce qu'on peut former un guide à raconter la façon dont ça se passait du temps de Champlain? Parce qu'évidemment, maintenant, on descend les rivières en rafting en canot, et il faut penser qu'à l'époque, les explorateurs l'avaient de façon... C'était un petit peu plus difficile, un petit peu plus ardu, et aussi expliquer les portages. Donc, à travers, par exemple, les centres de conservation qui ont maintenu les sentiers et qui ont fait de l'interprétation aussi. Donc, comment ces gens-là peuvent transmettre les aventures de Champlain à des visiteurs là, qui souhaiteraient en connaître un petit peu plus.
Et on parle des lieux de mémoire de Champlain. Alors, peut-être que ça, pour nos auditeurs, ce serait intéressant de savoir quels.
Alors, en fait, des lieux de mémoire, il y en a un petit peu partout en Ontario. C'est étrange, c'est pas des lieux qui sont tellement mis en valeur. Souvent, ça va être un parc ou une plaque ou une statue. Dans la région de Midland-Penetang, c'est un peu plus visible, là, parce qu'évidemment, Champlain est resté dans cette région-là avec les Hurons-Wendat pendant quand même pas mal de temps. Donc, il est resté dans un village, donc on a certaines preuves archéologiques qu'il est resté dans ce coin-là. Et on a aussi beaucoup, évidemment, on a l'Astrolabe, la statue de l'Astrolabe, mais des statues de Champlain aussi, et des statues de Champlain qui rencontrent les Premières Nations. Donc, mais tout au long de la rivière, en fait, aussi bien à Mattawa, où on va retrouver une statue de bois de Champlain, ainsi que les 3 croix qui sont du côté du Québec, on retrouve aussi des plaques dans certains parcs. Donc, elles vont toutes être identifiées. Donc, ça va être soit ces endroits-là sont accessibles, on peut s'arrêter et puis aller voir, soit on va s'arranger pour avoir des images et puis aussi des explications là sur pourquoi ce site-là. Est-ce que, par exemple, à Cobden, c'est censé être l'endroit où Champlain aurait perdu son astrolabe. Donc, c'est une histoire légende parce que ça n'a jamais été prouvé. C'est une partie aussi. Aussi, je pense qu'il intéresse les gens, c'est le côté un petit peu légendaire de ces grands explorateurs qui sont venus découvrir ce nouveau monde, finalement, et qui ont découvert d'autres choses par rapport à ce qu'ils pensaient découvrir, et aussi la vie dure qu'ils ont eue.
Et à quel moment c'est préférable de visiter, et quelle invitation faites-vous dans les circonstances?
Alors, pour l'instant, la route Champlain, c'est surtout, je dirais, de mai à octobre. La plupart des attraits qui sont membres de la route ne sont pas ouverts l'hiver. Par contre, on commence à travailler avec d'autres régions comme le nord de l'Ontario qui souhaiteraient avoir un lien avec la route Champlain pour offrir justement une diversité d'expériences dans d'autres saisons. Mais principalement, c'est cette saison-là. Alors, dans certains endroits, on recommande plutôt juillet-août à cause peut-être des mouches, des maringouins. Ou l'automne pour certains endroits où on parle plus d'agrotourisme ou de tourisme culinaire, comme le comté du Prince-Édouard ou le Mariac-Enberge, par exemple, ou ce genre d'endroit-là.
Et pour plus de renseignements, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous avez un site Internet, par exemple?
Alors, l'application web, qui est un site Internet qui va permettre aux voyageurs de découvrir la route Champlain et aussi de créer leur propre itinéraire, va être bientôt disponible à partir du mois de juin. Tous les produits, les sites historiques, etc. vont être affichés, ainsi que des capsules vidéo. Et ça va être disponible, donc, au mois de juin. Ça va être routechamplain.ca.
Alors, c'est très simple. Alors, merci beaucoup de ces grandes informations, Isabelle De Bruin, et on vous dit à la prochaine.
Et merci à vous. Merci.
Salut, c'est la Grande Sophie et vous écoutez Choc FM.
Et c'est avec plaisir maintenant que je visite un beau pays de l'Amérique du Sud, soit le Pérou, en compagnie d'une spécialiste qui connaît beaucoup cette belle destination de Vox International. Plaisir de saluer, en l'occurrence, Mme Renée Wilson. Bonjour, madame.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien vous-même.
Absolument.
Renée, je sais que vous voyagez beaucoup et que vous connaissez beaucoup le Pérou. Alors, le Pérou, pour vous, là, c'est quoi?
C'est une grande destination avec une énorme diversité au niveau du paysage, au niveau de la culture, au niveau de la température aussi, parce que le Pérou est situé juste au sud de l'équateur. Mais c'est un pays qui s'étend, si on calcule la distance du Pérou à partir du nord jusqu'au sud, c'est à peu près la distance entre Montréal et Miami. Donc, on a toute une grande variété de climats. Ce qui fait qu'avec un climat aussi, des différences de climat aussi importantes à cause qu'on a quand même le secteur de l'Amazonie. On a la côte, mais on a entre les deux, on a ce qu'on appelle la selva, qui sont les montagnes, les Andes. Donc, ce qui fait une grande variation au niveau du type de température et type d'environnement aussi. Donc, une flore et une faune très, très riches pour la même raison. Et aussi, au niveau de la gastronomie, à cause de cette flore et de cette faune si riche, ce qui fait qu'au niveau de la gastronomie, le Pérou a été nommé au World Travel Awards pour deux années consécutives comme la destination par excellence pour la gastronomie. Donc, pour les gens qui veulent aller découvrir tout le côté culinaire du Pérou, c'est vraiment extraordinaire parce que on a quand même un mélange de cuisine européenne, africaine, asiatique et des Andes. Donc, ce qui fait tout un beau mélange, une belle fusion de toute cette culture-là.
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant au Pérou?
Ouh!
Ouais, bonne question.
C'est une très bonne question. C'est très, très varié. C'est sûr que le sud du Pérou est bien connu à cause de Machu Picchu et puis la porte d'entrée étant la ville de Cusco, qui était la capitale de l'Empire Inca. Il y a toute cette section très intéressante où est-ce qu'on peut découvrir les vestiges de l'Empire Inca sur plusieurs kilomètres. Mais faut pas oublier aussi que la partie nord du Pérou, qui est peut-être un peu moins connu, est vraiment l'endroit idéal pour les gens qui sont intéressés à l'histoire précolombienne. Donc, avant que les colons espagnols arrivent en Amérique du Sud, il y a des grandes civilisations qui étaient là aussi. Et puis, il y a des vestiges, on retrouve des sites archéologiques exceptionnels dans le nord du Pérou qui valent vraiment la peine d'aller visiter. Donc, souvent, les circuits vont faire peut-être un 8, 10, 12 jours dans le sud et souvent ils vont rajouter à partir de Lima un circuit de 3, 4 à 5 jours pour aller découvrir le nord du Pérou, pour découvrir ce qu'on appelle aussi la route Moche. La route Moche parce qu'on parle de la civilisation Mochica qui habitait une bonne partie du nord du Pérou. Alors on peut découvrir ça justement en allant dans les provinces du nord du Pérou.
Quand on va au Pérou, là, le peuple est accueillant. Est-ce que le peuple aime fêter?
Ben absolument. D'ailleurs, si on parle de fêtes, si on parle de folklore, il y a un endroit qui est bien connu à Puno. Puno, qui est sur les bords du lac Titicaca, qui est le lac navigable à la plus haute altitude au monde. Alors, Puno, cette ville qui est située justement aux abords du lac, c'est l'endroit où on retrouve le plus de folklore. C'est vraiment la capitale folklorique du Pérou. Et puis, il y a des fêtes toute l'année. D'ailleurs, les gens qui pensent aller dans ce secteur-là, ça vaut la peine de vérifier le calendrier parce qu'il y a des fêtes qui sont soit des fêtes religieuses, des fêtes catholiques ou ça peut être des fêtes précolombiennes et ça va souvent avec le calendrier agricole. Donc, on va fêter différents événements justement qui ont rapport avec l'agriculture et puis la religion. Et puis, c'est vraiment dans le secteur de Puno, mais aussi à travers tout le Pérou, il y a énormément d'événements. Mais cet endroit en particulier est vraiment la capitale folklorique du Pérou.
Et concernant les forfaits avec les voyagistes, comme Voyage Cassis ou autre, là, est-ce que c'est possible de bien s'organiser?
Absolument. Voyage Cassis offre le Pérou déjà depuis très longtemps. Ils sont vraiment des experts sur la destination. Ils offrent des circuits classiques, mais aussi ils vont offrir les différentes régions du Pérou et ils font aussi du sur-mesure. Donc, ils sont très expérimentés. Puis, les agences font affaire avec Voyage Cassis depuis déjà très longtemps. Ils ont des agences locales avec lesquelles ils travaillent là-bas. Ils ont différentes agences locales avec lesquelles ils travaillent et puis ils sont très bien desservis là-bas. En français aussi, parce qu'évidemment, ils ont une clientèle francophone, donc ils ont des circuits en français.
Et pour se rendre à destination, de quelle manière ça procède par avion, par exemple?
Ben, il y a différents vols. Il y a un vol direct à partir de Toronto avec Air Canada Rouge 3 fois par semaine. Sinon, ben, il y a des vols aussi en partance des États-Unis. Il y a des vols avec LAN, qui s'appelle maintenant LATAM, qui ont des vols de New York et de Miami à peu presque tous les jours. Vous avez aussi des vols à partir de Montréal avec la compagnie aérienne Copa. Copa passe par Panama. Et puis, sinon, vous avez toutes les autres compagnies aussi qui ça peut être avec Air au Mexico à partir du Mexique. Donc, il y a différents points où on peut...
J'avais une invitation à faire à ceux qui aimeraient découvrir ce beau pays de l'Amérique du Sud ou ceux qui le connaissent déjà, qu'est-ce que vous diriez?
Bien, je dirais que c'est parmi les plus beaux pays d'Amérique du Sud, les plus diversifiés. Et si vous voulez vous imprégner d'une culture, une culture autochtone authentique et puis de découvrir la cuisine et découvrir les vestiges de l'Empire Inca et puis des cités précolombiennes, c'est vraiment la place de prédilection.
Et pour plus de renseignements et se prévaloir ou se renseigner pour un voyage ou même simple information, qu'est-ce qu'il faut faire?
On a un magnifique site web qui est www.peru.travel. Ça semble peut-être un site en anglais, mais il y a de l'information en français. Vous avez juste à cliquer sur français et l'information est là. Il y a toute une section multimédia où on peut avoir accès à des photos et accès à des vidéos en anglais, en français et dans différentes langues qui sont très intéressantes et sur lesquelles on peut trouver de l'information, que ce soit pour faire l'observation d'oiseaux, si on s'intéresse plus particulièrement à la culture, si on veut avoir de l'information sur une région en particulier du Pérou. Donc, il y a au moins une quinzaine de vidéos qui sont disponibles allant de 5 à 10 minutes chacun. Donc, c'est vraiment une belle façon de pouvoir découvrir la destination. Le site est très, très bien fait.
Annie Wilson, merci beaucoup.
Absolument. Avec plaisir.
Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Puis, on espère découvrir encore une fois, éventuellement, cette belle destination de l'Amérique du Sud, le Pérou.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Et là-dessus, nous passons à une pièce musicale.
La radio différente.
Votre radio.
Choc FM.
Et voilà qui termine votre émission Voyage sur les ondes de votre station radiophonique préférée, Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des commentaires ou suggestions, il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant albpasympatico.ca. Là-dessus, bien ici, André Bouchard qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous dit à la prochaine.